Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Nous allons commencer la cérémonie. Et je vous remercie de votre présence et participation. Au nom du Conseil administratif de la ville de Genève, j'ai l'honneur d'ouvrir cette manifestation dédiée à M. Théodore Monnoir. Permettez-moi de procéder d'abord aux salutations protocolaires d'usage. Monsieur le Président du Conseil d'État, Madame la conseillère administrative de la ville de Genève, Monsieur le membre de l'Assemblée du Comité international de la Croix-Rouge, Monsieur le Président de la Croix-Rouge genevoise, Madame Winthrop, descendante de Théodore Monnoir, Monsieur le Président de la Société Théodore Monnoir, Mesdames et Messieurs les membres de la famille Monnoir, Mesdames et Messieurs les invités, excusez-moi, Mesdames et Messieurs les collaborateurs et collaboratrices, les bénévoles et les amis de la Croix-Rouge, Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci de votre présence. Avant de procéder au dévoilement de la plaque épigraphique dédiée à M. Théodore Monnoir, je vous invite à écouter quelques interventions de circonstance. Permettez-moi de donner tout d'abord la parole à M. Roger Durand, président de la Société Théodore Monnoir.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers amis, à l'occasion du 150e anniversaire du décès de Théodore Monnoir, nous avons formé une société Théodore Monnoir, c'était en 2019. Nos buts étaient de mieux connaître et de faire mieux connaître le moins connu des cinq Genevois les plus connus sur la planète humanitaire, c'est-à-dire Henri Dunant, Gustave Moynier, Louis Appia, le général Dufour et Théodore Monnoir, qui lui-même était donc un médecin, philanthrope et cofondateur du Comité international de la Croix-Rouge. Bien vite, nous avons constaté qu'aucun lieu, qu'aucun monument, qu'aucun bâtiment, qu'aucune évocation était dédiée à Théodore Monnoir en sa bonne ville de Genève. Même la rue Monnoir aux Eaux Vives rappelle le souvenir d'un très aimable propriétaire terrien, mais n'a aucun rapport avec la famille et l'action humanitaire qui nous intéresse. En 2019, nous avons essayer d'installer la plaque que nous dévoilons aujourd'hui, mais malheureusement, ce ne fut pas possible, malgré le soutien du Conseil d'État. Et vous imaginez à quel point nous sommes reconnaissants aujourd'hui que le Conseil administratif de la ville de Genève, nouvelle équipe, ait non seulement accepté notre projet, mais qu'il l'ait soutenu. Et c'est pour moi l'occasion de remercier Madame Perler, qui va prendre la parole, je pense, oui, et Madame la maire Marie Barbet-Chapuis, qui, dès que nous en avons parlé, nous a vivement encouragés d'aller de l'avant. Au chapitre des remerciements, je tiens à souligner l'intervention déterminante de M. Sylvain Aldi, donc un collaborateur de la ville de Genève, qui a géré toutes les démarches et l'installation de cette plaque en moins d'un mois, parce que le dossier s'était un tout petit peu assoupi quelque part, que nous n'avons pas identifié. Et c'est avec en collaboration étroite avec Marina Treiser, qui est au service de la communication de la ville, et Madame Cindy Dulac-Lehmann de la Commission des monuments et des sites, qui ont rendu possible, dans des délais très rapides, cette pose enfin d'une plaque dédiée à Théodore Monnoir. Je souligne aussi que c'est la marbrerie Rossi, de Carouge, dont deux représentants sont parmi nous, qui a taillé et gravé cette plaque. J'ai le plaisir de dire que depuis le grand-père de M. Yann Rossi, nous travaillons ensemble à la fabrication et à la pose de plaques commémoratives. À une époque où nous assistons stupéfaits, j'insiste bien stupéfaits, à de singuliers devoirs de mémoire, effaceurs et négatifs, la société Théodore Monnoir est heureuse de participer à la mise en valeur du patrimoine humanitaire exceptionnel de la ville et du canton de Genève. Pour mémoire, en 1988, avec la société Henri Dunant, nous avions posé deux plaques commémoratives, l'une à la rue du Puy-Saint-Pierre, exactement dans cette direction, pour signaler la maison Henri Dunant, et l'autre rue de l'Évêché, exactement derrière la cathédrale, pour signaler la fondation du Comité international de la Croix-Rouge. En 2012, ce fut une plaque dédiée au général Dufour à la rue Étienne-Dumont où il logeait, d'ailleurs dans un appartement tout à fait modeste. En 2018, ce fut pour Louis Appia à la rue Guillaume Farel, de nouveau à quelques pas de nous. En novembre 2021, la Croix-Rouge genevoise a eu l'excellente idée d'honorer la mémoire d'Alice Favre, une femme remarquable, notamment pour la défense des femmes et des soins à domicile. Et aujourd'hui, eh bien, nous avons la plaque Monnoir. Je terminerai en soulignant que nous avons encore des projets, c'est-à-dire que l'an prochain, si possible, nous nous retrouverons à la rue Gourgas pour signaler l'hôpital du même nom qui avait été voulu par Théodore Monnoir et que son épouse Christine Jarvis et son fils Paul, médecin, bâtiront et en feront un lieu d'accueil pour tous les enfants, pauvres ou riches, quelle que soit leur nationalité et quelle que soit leur confession. C'était exactement dans l'esprit de la Croix-Rouge. Et puis, nous espérons aussi rendre hommage à Gustave Moynier, qui est un peu l'oublié de toute cette équipe fantastique, et nous espérons pouvoir mettre une plaque à l'endroit de sa naissance dans la rue de la Confédération. Vous voyez donc que cette action, quand même modeste, mais importante en termes de communication, surtout dans un site comme la vieille ville de Genève, où les touristes, les visiteurs, les groupes sont très nombreux, et nous pouvons penser qu'ainsi, notre panorama est complet quant aux fondateurs du mouvement humanitaire. Je vous remercie.
Merci, Monsieur Durand. Je donne maintenant la parole à Madame Laurence Winthrop, descendante de Monsieur Théodore Monnoir.
Mesdames et messieurs, chers amis, transportons-nous, si vous le voulez bien, à l'été 1834. La cathédrale était bien sûr là, comme l'auditoire de Calvin, mais la statue de Jérémie n'existait pas encore. La rue du Soleil Levant, oui, ainsi que l'enfilade d'immeubles qui l'allonge. Là, devant nous, on imagine entrer par la porte cochère un couple jeune, lui en redingote de drap foncé, elle en robe verte, vert d'eau à manches gigots, bottines aux pieds et large chapeau de paille comme le veut la mode de l'époque. Vous l'aurez deviné, il s'agit de Théodore Monnoir, jeune médecin tout juste diplômé, élancé, mince, plein de vivacité, et de sa femme Herminie, au maintien plus grave, qui vient l'épouser à Paris. Leur rencontre a profondément bouleversé leur vie. Veuve de Paul-Louis Courier, célèbre pamphlétaire français, assassinée en Touraine en 1825, Herminie, plus âgée que Théodore, se remet lentement de ce drame et de ce procès qui a suivi. Lorsqu'elle fait la connaissance de ce jeune Genevois, plein de fougue, de passion, qui l'emmène dans le tourbillon d'une vie amoureuse riche de partage à Paris, où Théodore poursuit ses études de médecine. À peine cette idylle se concrétise-t-elle, Herminie se sait enceinte, qu'un second procès s'ouvre à Tours en janvier 1830, à la suite de nouvelles révélations. Herminie est arrêtée avant d'être complètement blanchie et libérée. Entre-temps, le père de Théodore, le docteur Charles Théophile Monnoir, mourait à Genève, laissant sa femme et sa fille à la responsabilité de Théodore. Or, Théodore n'a que 23 ans et fait face à ses épreuves avec un courage peu commun. Herminie va accoucher en Italie chez le cousin de Théodore, le docteur Robert Monnoir. Le futur père court de diligence en coche d'eau pour arriver en 10 jours à Poggibonsi, près de Florence, le jour même de la naissance du petit Charles. Les études de médecine terminées à Paris, le mariage célébré à Saint-Eustache, le couple s'installe à Genève en 1834 donc. Et Théodore ouvre son cabinet médical à côté de l'appartement au premier étage. Il part le matin opérer à l'hôpital au Bourg du Four en descendant le passage des degrés de poule, puis revient donner ses consultations à son cabinet avant de passer voir ses patients à domicile en fin d'après-midi et parfois aussi la nuit pour les accouchements. Quelques jours de liberté par-ci par-là permettent de monter au Salève pour de longues excursions dont il raffole. La naissance de leur second fils, Paul, marque ces années de bonheur apaisé. Herminie a repris ses pinceaux, c'est une peintre magnifique. Mais la médecine ne peut rien à cette époque contre l'érysipèle, une maladie infectieuse dont elle souffre et qui va l'emporter en 1842 à l'âge de 47 ans. 6 ans plus tard, Théodore épouse une jeune Américaine vivant en Europe. Christine Jarvis vient d'une famille très connue d'hommes d'église de la côte est des États-Unis. Elle accompagne son père dans ses recherches sur l'histoire de l'église et de l'art religieux. Elle parle parfaitement le français et partage les préoccupations humanitaires de Théodore. Cette femme de conviction garde des contacts avec les États-Unis et facilite probablement les liens qui permettront à Théodore de faire connaître les études américaines réalisées sur les secours apportés aux blessés pendant la guerre de sécession. Ensemble, le couple aura 3 enfants, Léon, futur médecin, Winton et Christine. À eux aussi, Théodore leur donne le goût de la montagne en séjournant au Salève, à Grange-Gaby et Grange-Passet. Il achètera un terrain sur lequel sa fille fera construire la maison bonne où leurs descendants viennent encore aujourd'hui y passer des vacances. À Genève comme au Salève, l'épouse de Théodore a toujours à cœur de maintenir unie et réunie cette famille composite. Elle accueille et correspond avec ses beaux-enfants, ceux de Théodore et d'Herminie, mais aussi ceux du premier mariage d'Herminie avec Paul-Louis Courier. Elle le fera par-delà la mort subite de Théodore en 1869 à l'âge de 62 ans. Théodore Monnoir était un homme généreux, droit, libre et plein d'esprit. Ajoutons, d'après les témoignages familiaux, qu'il possédait aussi beaucoup d'humour. Vous aurez ainsi un portrait brossé à grands coups de pinceau d'un homme bien. Mais il est temps que l'on vous parle de son rôle à la Croix-Rouge et je vous remercie.
Merci Madame Winthrop de votre témoignage. Et je donne maintenant la parole à Monsieur Éric Mégevant, président de la Croix-Rouge genevoise.
Bonsoir et merci. Je m'associe aux salutations d'usage protocolaire qui ont été faites. Mesdames, Messieurs, chers amis de la Croix-Rouge, c'est pour moi un plaisir et un grand honneur de m'adresser à vous ce soir et de célébrer en votre compagnie la pose et la mise en évidence de cette plaque dédiée à la mémoire de Monsieur Monnoir. C'est vrai, il a été dit, et je le répète, il a été jusqu'à présent le grand oublié du Club des Cinq, puisque tous les autres fondateurs ont déjà, ou presque, je l'ai compris, leur plaque. Cette injustice est donc aujourd'hui enfin réparée, et j'aimerais lui rendre hommage, non pas sur l'effet humaniste de cette magnifique personne qu'il est, tel qu'il a été décrit par Mme Winthrop, mais pour m'arrêter principalement sur deux des principales contributions qu'il a eues par la naissance et le déploiement de ses activités pour la Croix-Rouge, et les conséquences positives qu'elles ont encore aujourd'hui sur la population genevoise et internationale. En 1864, encore un peu d'histoire, Théodore Monnoir accepte d'assumer avec son collègue Louis Appia, également médecin, la formation d'un comité des dames. Elles seront 160 dès la première année à adhérer à cette association. Le docteur Monnoir leur montre et leur apprend comment préparer entre autres la charpie, qui est faite en délitant des draps de toile et parfois des draps de lin, pour en faire des pansements indispensables à la prise en charge et aux soins des patients et des blessés sur le terrain, où on le verra plus tard également, à domicile. Et c'est ainsi que la confection d'habits civils, de vêtements d'infirmerie, de pansements de toutes sortes, d'ustensiles médicaux, ont été l'une des principales activités de la Croix-Rouge genevoise durant ces décennies. Quelques années seulement après la formation du Club des Dames, du Comité des Dames, une grande personne dont il a été fait mention tout à l'heure, Alice Favre, y fait son entrée. Et celle qui deviendra la première présidente en 1914 de la Croix-Rouge genevoise, et qui a déjà sa plaque déposée le 16 novembre de l'année passée au Parc de la Grange, se distingua d'emblée par son dévouement et son opiniâtreté. Participant à la création d'un établissement d'infirmières, Alice Favre a ensuite initié les soins à domicile à Genève, qui ont été repris, comme on le sait aujourd'hui, par les institutions d'État, aujourd'hui sous l'égide de l'IMAD, et elle y a fait rayonner la Croix-Rouge à l'international. On peut donc affirmer aujourd'hui que l'action et l'altruisme de ces dames sont à la source de la section genevoise de la Croix-Rouge, qui apporte aujourd'hui son soutien, et on l'a vu cette année 2022, à plus de 40 000 personnes sur l'année. Et c'est donc sous l'impulsion de Théodore Monnoir que ce sont bien des femmes qui sont à l'origine de la création de la Croix-Rouge genevoise, qu'elles en soient remerciées. La deuxième contribution de M. Monnoir révèle à la fois son courage et son esprit en avance sur son temps. En effet, Henri Dunant peinait à imposer à son club des cinq son idée de neutraliser le personnel sur les champs de bataille, notamment le personnel sanitaire, le personnel civil, et de surcroît par des sociétés composées de civils. Nombreux étaient en effet à cette époque les militaires à trouver absurde d'accorder un tel droit à des civils pour qu'ils soient des blessés, et d'autant plus absurde s'ils devaient en plus s'occuper des blessés ennemis. Gustave Moynier a donc courageusement pris la peine d'intégrer... Gustave Moynier avait lui-même de la peine à intégrer ce concept. Et c'est véritablement grâce à Théodore Monnoir qu'il a réussi non seulement à contredire son président de l'époque, mais arrivé par sa détermination à acter en faveur de l'idée révolutionnaire de M. Dunant de neutraliser les prises en charge des malades et des blessés sur le terrain. Théodore Monnoir a ainsi contribué en assurant à convaincre autour de lui que les civils pouvaient apporter une aide précieuse en temps de guerre, à condition d'y être bien formés et préparés à cela. Et quand on songe à la guerre qui nous concerne aujourd'hui, une des guerres de terrain, la guerre russo-ukrainienne ou le conflit russo-ukrainien, on voit combien aujourd'hui cette évidence est d'actualité. On le voit notamment dans nos activités ici au sein de la Croix-Rouge genevoise, puisque on constate par notre permanence d'accueil, notre centre d'accueil de jour, qui accueille régulièrement et qui jusque-là a accueilli près de 4000 personnes depuis le mois de février, est une structure qui permet de permettre à toutes ces personnes d'obtenir une orientation, une assistance alimentaire, vestimentaire, des orientations sur les lieux potentiels d'hébergement, peut-être des prises de contact au niveau des activités, de restructuration, d'activités d'encadrement pour les enfants, les personnes âgées, le centre d'intégration culturelle, les cours de langue, les activités culturelles et d'esprit civique aux enfants. Les activités sont multiples, elles sont trop nombreuses pour qu'on vous les nomme ce soir. Ce centre d'accueil de jour pour les réfugiés est à la fois un lieu d'information, un espace de répit et de rencontre, et nous avons l'intention d'y ajouter un lien de un centre de formation pour le soutien psychologique. Une sorte de gestion du stress post-traumatique qui affecte toutes ces personnes qui ont quitté leur pays dans des conditions dramatiques que l'on sait ou que l'on imagine. Et nous mettons donc en place actuellement une formation de premier secours psychologique qui, telle qu'elle est déjà dispensée au niveau international par bien d'autres sections internationales de la Croix-Rouge. Cette formation devrait permettre aux bénévoles d'être encore mieux en mesure d'assurer adéquatement le soutien aux personnes en détresse. Inspirée par l'opiniâtreté d'Alice Favre et la force de persuasion de Théodore Monnoir, on aimerait beaucoup voir cet esprit civique diffusé non seulement au sein de tous les bénévoles et tous les acteurs de la Croix-Rouge, mais bien plus encore diffusé au sein de notre société civile. Pour terminer, je reprendrai cette pensée d'Henri Dunant qui devrait être une source d'inspiration pour chacun de nous ici ce soir, qui est « Seuls ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde y parviennent. » Je vous remercie de votre attention.
Merci, Monsieur Mégevant. Nous allons maintenant écouter Monsieur Jürg Kesselring, membre de l'Assemblée du Comité international de la Croix-Rouge.
Merci beaucoup pour cette invitation de dire quelques mots au nom du Comité international de la Croix-Rouge. Des 5 fondateurs de notre CICR, en février 1863, Théodore Monnoir demeure certainement le plus mystérieux. Contrairement à ses collègues, il n'a en effet pas laissé une grande empreinte dans la mémoire de l'institution. Son décès soudain, en avril 1869, alors que le CICR n'en est qu'il y a ses tout débuts, explique certainement cet oubli relatif dans lequel est tombé Monnoir au fil des décennies. Par ailleurs, on ne retrouve que peu de traces écrites de lui dans les archives du CICR, si bien qu'il est difficile de connaître son implication réelle dans le développement de l'organisation ou ses relations avec les 4 autres membres de la jeune organisation. Enfin, sa parole apparaît aussi très peu dans les premiers procès-verbaux des réunions du CICR, alors même que Monnoir assiste assidûment à quasiment toutes les séances. Si Monnoir reste pour le CICR un personnage discret, l'institution lui doit tout de même en grande partie son existence. En effet, lors de la conférence internationale d'octobre 1863, convoquée par le CICR pour discuter de la mise en œuvre concrète des propositions contenues dans le souvenir de Solferino, Théodore Monnoir parvient grâce à un discours des plus convaincants et teinté d'une touche d'humour dont il a le secret à éviter l'échec de la réunion. Les représentants français sont alors plus que sceptiques, nous avons entendu déjà, à vouloir suivre l'idée fondamentale d'Henri Dunant de constituer dans chaque pays une société de volontaires civils pour venir en aide aux militaires blessés sur le champ de bataille. Or, la position française, première puissance européenne à l'époque, pèse lourd dans les débats de peu et peut décider du sort de la conférence et donc, par ricochet, de celui de l'œuvre humanitaire naissante. Les doutes de la délégation française concernent surtout l'efficacité de ces sociétés de volontaires une fois au contact du feu. Plutôt que de faire appel des hommes, les délégués français estiment préférable que l'armée se dote de plus de mulets pour évacuer les blessés. 1500 mulets seraient tout aussi utiles que 15 000 auxiliaires volontaires, dit-il. Sans nullement se laisser impressionner par la situation, Théodore Monnoir répond une à une, aux objections de la délégation française, rétorquant que si l'on suivait les vues françaises, la seule tâche qui resterait à la conférence serait d'obtenir des mulets supplémentaires. Il finit... Oups, c'était un mulet peut-être. Il finit par convaincre les personnes réticentes de la... Des personnes réticentes. Oups. Ah. Excusez-moi, mais c'est déjà prêt. Validité des arguments de Dunant. La conférence poursuit et elle aboutit à l'adoption de résolutions et de vœux qui constituent la charte fondamentale de l'œuvre de secours aux blessés militaires, à commencer par l'idée de la neutralité, nous avons entendu, du personnel sanitaire, pierre angulaire de tout l'édifice de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Un second point à mettre au crédit de Monnoir est qu'il sert d'interface entre le CICR et le monde anglophone. En effet, il est le seul des cinq membres fondateurs à maîtriser parfaitement l'anglais, et cela du fait de ses études de médecine en Angleterre et plus tard de son mariage en seconde noces avec une Américaine. Or, bien que le français soit alors la langue diplomatique par excellence, toute la correspondance que reçoit le CICR des îles britanniques et d'outre-Atlantique est majoritairement rédigée en anglais. C'est la tâche de Monnoir de la lire et de la traduire à ses collègues. La chose n'est pas aussi triviale qu'elle en a l'air, car la Grande-Bretagne et les États-Unis font alors figure de retardataires, sinon des réfractaires, dans la création de leur propre société nationale de volontaires et, pour avancer ses arguments en faveur de telles structures, le CICR se doit de comprendre parfaitement ceux de la partie opposée. Monnoir permet alors ce dialogue dont il ne verra toutefois pas l'aboutissement. En effet, les Croix-Rouges britanniques et américaines sont officiellement constituées après son décès, la première en août 1870, au septembre, et la seconde en mai 1881. Moins flambant peut-être qu'un Dunant, moins illustre qu'un Dufour, Théodore Monnoir n'en reste pas moins un membre clé de l'organisation humanitaire débutante que est alors le CICR. Et son apport, même s'il nous est peu connu, a certainement été tout aussi décisif que celui de ses quatre autres collègues pour consolider et rendre viable une institution et un projet. Le secours organisé et coordonné aux victimes militaires qualifiées à l'époque d'utopistes. Travailleur dans l'ombre, Monnoir préfigure aussi peut-être ces milliers de collaboratrices et collaborateurs du CICR qui aujourd'hui œuvrent chaque jour pour qu'un idéal humanitaire plus que 150 teneurs continue toujours d'exister. Merci bien.
Merci Monsieur Kesselring. Et je passe maintenant la parole à Madame Frédérique Perler, conseillère administrative de la ville de Genève.
Mesdames et messieurs, les salutations protocolaires ayant déjà été prononcées, je m'y associe volontiers. Que serait Genève sans la Croix-Rouge? On ne peut guère l'imaginer aujourd'hui. Mais tout laisse à penser que cette organisation humanitaire fondée dans notre ville en a bouleversé le destin. Sans la Croix-Rouge, on peut douter fortement que Genève aurait été choisie par la suite comme siège de la Société des Nations, puis comme siège européen des Nations Unies, et comme site d'implantation de toutes sortes de grandes organisations ou agences liées à l'ONU. Tout ce tissu transnational et cosmopolite participe à l'identité de Genève. Il a continué à développer les thématiques humanitaires très présentes sur la place internationale genevoise. Sans la Croix-Rouge, il y a fort à parier que Genève n'aurait jamais atteint ce statut de plateforme connue à l'échelle mondiale. Genève serait très certainement restée une ville périphérique, peut-être prospère, mais reléguée au rôle modeste d'une cité de taille moyenne à l'échelle du continent. Genève, dont je représente ici l'exécutif municipal, doit donc énormément aux esprits éclairés qui ont fondé la Croix-Rouge suite au témoignage bouleversant de Henri Dunant à son retour de la bataille de Solferino. Ses fondateurs ont épaulé ce visionnaire et ont porté avec lui la Croix-Rouge sur les fonts baptismaux. Ce quinquet, qui a composé le futur comité international de la Croix-Rouge, comportait bien sûr Henri Dunant, dont la mémoire est honorée par une artère en bordure de la plaine de Plainpalais, et d'autres noms illustres comme le général Guillaume-Henri Dufour, qui a sa statue Place de Neuve, près du buste d'Henri Dunant, Louis Appiat, qui a son avenue près du siège actuel du CICR, et Gustave Monnier, qui a sa rue non loin de là, à Sécheron, et son buste au Parc des Bastions. Qu'en est-il de Théodore Monnoir ? Une rue portant son seul patronyme existe bien aux eaux vives, mais elle ne lui est pas spécialement consacrée. Si la personnalité et le rôle spécifique de Théodore Monnoir a été injustement occulté dans la toponymie genevoise, c'est peut-être parce qu'il était d'un naturel discret et parce que la vie ne lui a pas permis de rester longtemps au gouvernail de la toute jeune Croix-Rouge. Son décès subi, à 62 ans, n'est en effet survenu que 6 ans après la création de l'organisation. Mais si j'en crois ce que j'ai pu lire, son apport a été marquant. Et pas seulement en raison de ses connaissances médicales qui ont très certainement constitué une aide précieuse. Grâce à sa parfaite maîtrise de la langue anglaise, Théodore Monnoir a aussi fait œuvre de diplomate et il a notamment plaidé avec succès en faveur de l'engagement de volontaires au sein de la Croix-Rouge. Cette contribution décisive que je tiens à souligner ici, a sans doute permis à la Croix-Rouge de ne pas rester un concept en mains de quelques élites et de bénéficier d'un fort ancrage populaire. Un ancrage qui reste encore manifeste de nos jours. Théodore Monnoir s'est lui-même investi dans la formation de bénévoles à Genève. Je perçois donc, chez cet homme du 19e siècle, une démarche très moderne. On parlerait de nos jours de participation citoyenne, une participation essentielle, puisque sans elle, les meilleures idées sont vouées à l'échec dans nos sociétés démocratiques. C'est une valeur à laquelle je crois fortement. Et cela me fait d'autant plus plaisir d'honorer aujourd'hui la mémoire de Théodore Monnoir. Le secours aux victimes de la guerre reste malheureusement aussi une nécessité éminemment contemporaine. L'actualité tragique de cette année 2022, qui a vu un nouveau conflit armé éclater sur sol européen, le démontre hélas. Cette cérémonie me donne l'occasion de remercier tous les échelons de la grande famille de la Croix-Rouge pour ce que cette dernière a accompli et continuera d'accomplir en faveur des victimes de cette guerre et de toutes les autres violences qui déchire des régions de notre planète. Mais pour en revenir à Théodore Monnoir, il est juste que sa mémoire soit honorée et mise en lumière. S'il nous entend, je veux le remercier pour ce qu'il a apporté au monde en général et à sa ville en particulier. Car la population genevoise a bénéficié très directement de ses actions. Il faut rappeler le rôle que ce médecin philanthrope a joué dans la création de l'hôpital Gourgas, afin que tous les enfants malades puissent être pris en charge, même s'ils étaient issus de milieux populaires. Je tiens à saluer ici sa vision novatrice d'une médecine solidaire, égalitaire et humaniste. Je remercie enfin la société Théodore Monnoir d'avoir pris la très heureuse et pertinente initiative d'apposer cette plaque épigraphique à cette adresse qui fut son domicile. Et je la remercie aussi pour tout ce qu'elle apporte afin de nous éclairer sur l'histoire de notre ville. Je vous remercie.
Merci Madame Perlère. Pour clore les interventions officielles, j'invite maintenant Monsieur Mauro Poggia, président du Conseil d'État de la République et canton de Genève.
Merci. Mesdames et messieurs, chères toutes, chers tous, permettez-moi de m'associer également aux salutations protocolaires qui ont été prononcées et de vous dire tout le plaisir et l'honneur qui sont les miens d'être ce soir parmi vous en mon nom personnel et au nom du Conseil d'État. La cérémonie de ce soir sonne comme un moment d'espoir au cœur d'une période de profonde incertitude. Un moment d'humanité tandis que notre monde est secoué par de vives tensions. Nous avions à peine repris notre souffle après 2 années de pandémie que voici que la guerre a fait son retour en Europe. La souffrance que vivent au quotidien les Ukrainiennes et les Ukrainiens nous rappelle que la guerre n'est pas un concept abstrait, réservé aux livres d'histoire. La guerre est un drame bien réel, actuel. Elle sépare des familles, elle bouleverse des existences humaines, elle vole des vies, non seulement en Ukraine d'ailleurs. Ayons également une pensée pour l'Éthiopie et le Yémen, Myanmar et Haïti, la Syrie et l'Afghanistan et tous ces pays dans lesquels s'exerce la violence à travers des crises. À l'ère du cyber et des proxies, les conflits se sont transformés. Mais une chose n'a pas changé. Ils font toujours des victimes. Ils provoquent toujours des tragédies humaines. Humanité, impartialité, neutralité, indépendance, volontariat, unité, universalité. On ne rappellera jamais assez les principes qui guident le travail du CICR, que je remercie à mon tour. Des principes fondamentaux et nobles qui s'élèvent aujourd'hui tel un phare pour éclairer l'humanité en ces temps difficiles, dans un monde qui peut nous sembler en perdition. Si Genève, depuis 150 ans, est la ville de la paix et du droit international, le Comité international de la Croix-Rouge y est pour beaucoup. C'est pourquoi honorer la mémoire de Théodore Monnoir est particulièrement émouvant aujourd'hui. Je souhaite ici souligner 3 points spécifiques à son propos. D'abord, ses qualités de diplomate et d'orateur, qualité reconnue par Talleyrand lui-même, qui aurait souhaité que Monnoir entre à son service. Lors de la conférence internationale de 1863, la participation des volontaires aux soins des blessés fait l'objet de fortes divergences, on vous l'a dit avant moi. Ainsi, que vous le soulignez, Monsieur le Président, dans votre article, Théodore Monnoir est aussi un fondateur de la Croix-Rouge, c'est bien de le rappeler. Monnoir prend une part très active dans les débats et pas seulement dans l'action elle-même. Alors que les médecins militaires considèrent ce corps d'infirmiers volontaires comme une critique implicite à une concurrence, Monnoir ménage leur susceptibilité. C'est là qu'on voit le diplomate. Mais il s'est aussi répliqué avec fermeté au médecin principal Boudier, délégué impérial, envoyé par Napoléon III lui-même. Et c'est là qu'agit l'orateur. Ensuite, son souci du plus grand nombre au cours des réunions du comité. Théodore Monnoir ne cesse de militer pour que la sensibilisation aux idées d'Henri Dunant ne soit pas réservée aux seuls dirigeants politiques et militaires. Pour lui, il est primordial d'en assurer la promotion auprès du grand public, de la masse, afin que ses idées puissent disposer de la plus large assise populaire possible. Dans le même ordre d'idées, mais dans le cadre de sa fonction de médecin, il milite pour la création d'un centre de soins ouvert à tous, on l'a dit, tous les enfants, sans distinction de confession, de classe sociale, ni de nationalité. Cela peut nous sembler aujourd'hui évident. À l'époque, c'était visionnaire. Enfin, son engagement pour l'intérêt commun, car Monnoir ne se contente pas d'œuvrer au bénéfice des autres en tant que médecin. Il est actif en société, s'implique dans de multiples conseils et comités. Il fait partie, bien sûr, de la Société genevoise d'utilité publique, mais aussi du Conseil de santé de la République de Genève. Il fonde encore la Société médicale d'observation à Paris. Mesdames et messieurs, nous aimons à dire que le canton de Genève est à la fois viscéralement suisse et profondément ouvert sur le monde. Attaché à ses racines et acteur du sort de la communauté internationale. Tout au long de sa vie, Théodore Monnoir a incarné cet esprit, jouant un authentique rôle d'interface entre la philanthropie genevoise et le monde, notamment le monde anglo-saxon, vous l'avez très justement rappelé. Que cet événement soit enfin l'occasion de rappeler l'attachement et l'encouragement de Genève pour les valeurs universelles et la Genève internationale. En dépit des tensions actuelles, Genève se fait forte de rester ce qu'elle est depuis 150 ans, grâce à Théodore Monnoir, notamment la ville de la paix et du droit international, la ville du dialogue et des droits humains. Merci à la Croix-Rouge pour son travail d'hier, d'aujourd'hui et malheureusement certainement de demain. Merci de votre attention.
Merci, Monsieur Poggia. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant procéder au dévoilement de la plaque épigraphique en l'honneur de Monsieur Théodore Monnoir. Auparavant, permettez-moi de remercier au nom du canton et de la ville les divers services cantonaux et municipaux qui ont contribué à l'organisation et la préparation de cette manifestation. Après le dévoilement, vous êtes toutes et tous conviés à une réception qui se tiendra sous les canons, d'où avait émis, vous avez entendu le muletier tout à l'heure. Je vous remercie de votre présence et de votre respectueuse écoute des intervenantes et des intervenants, et vous souhaite une bonne suite de soirée, et je vous invite à vous rassembler autour. Sont prêts.
Attention.
Prête.